Au hasard d'un trajet en train, le champion de tennis Guy Haines, sans s'en rendre compte, signe un pacte morbide avec Bruno Anthony, un admirateur au fait de ses tribulations amoureuses qui font la une des journaux à potins. Strangers on a Train, ou L'inconnu du Nord Express, un chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock, est le thème de notre discussion d'aujourd'hui. Vous écoutez Après coup.
Ben, moi, j'en ai pensé plein de choses du film, j'ai hâte d'en discuter, mais j'étais curieux aussi de t'entendre sur en quoi ça t'avait interpellé le film. C'est un film qui... c'est pas un film choisi au hasard.
Moi, je trouve que... ben, je suis pas la seule, là. Comme tout le monde, je trouve que Alfred Hitchcock, c'est pas seulement le maître du suspense, mais c'est un génie. Puis ce film-là, en particulier, c'est que c'est un... Tu sais, ça, c'est comme une soupe, une espèce de soupe au pois dans laquelle le personnage, un des personnages principaux, là, Guy Haines, essaye d'avancer, puis dans laquelle tu as l'impression, pendant tout le long du film, qu'il s'enfonce, qui est en lien avec ce qui a été théorisé encore en psychanalyse, puis entre autres par Serge André, comme étant comme l'imposture perverse, mm-hmm. ou le pacte pervers. Le gars qui lui dit, ils ont une discussion dans un train, puis il se rend pas compte qu'à cause de cette discussion-là, qui lui semblait à lui anodine, dans le registre dans lequel il était,
ouais.
il a signé un pacte
ouais.
avec quelqu'un qui le tiendrait à sa parole ou qui ferait tout pour le tenir à sa parole pendant tout le long du film. T'sais. Il s'est compromis sans faire exprès. Sans savoir comment ce faux échange-là peut avoir des conséquences sur la vie de quelqu'un, ça arrive aussi pour vrai dans la vraie vie.
Oui.
Puis je trouve que c'est tellement bien rendu, puis tellement bien raconté, tellement bien mis en scène,
mais c'est là
que moi, ça m'a...
Oui, ça interpelle l'idée hein, que quelqu'un te dit quelque chose, puis t'écoutes, t'es d'accord, t'es pas trop d'accord, tu t'objectes un peu, mais bon, ça reste un peu flottant, mais après ça, ça a plein de conséquences, et du fait de ton silence, qui est pris comme un silence tacite, qui est pris comme... C'est
ou de,
parti!
Oui, ou de juste ta politesse, en
ouais.
fait, hein, tu, oui, oui, poliment, t'engages quelque chose que tu peux plus arrêter.
Puis, c'est de l'ordre du discours, dans leur, tu sais, dans leur blabla, dans leur discussion... Mais lui, Bruno, prend ça au sérieux, va tuer sa femme. Parce que c'est ça, l'idée, c'est...
C'est ça. Ce que tu m'as dit, donc, tu m'as dit oui, oui, dans le train, ben donc je l'ai fait.
Oui.
Maintenant, c'est à ton tour.
Puis il fait un petit croquis.
Oui.
Va tuer mon père.
Que...
Voici. Voici. Tout bonnement. Passe par l'escalier, tourne à gauche.
Oui, c'est vrai que je suis débarrassée de mon problème, qui était mon ancienne femme dont je voulais divorcer puis qui ne voulait pas me laisser divorcer. C'est vrai. Est-ce que je suis contente? Je ne sais pas. Est-ce que je suis un peu contente puis que je me sens vraiment coupable de me sentir contente? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais rien à voir là-dedans. C'est pas du tout ça que je voulais dire.
Mais en fait, j'ai rien dit.
En fait, j'ai rien dit. Mais en tout cas, c'est pas de ma faute.
Oui. La culpabilité, on peut vraiment penser que la culpabilité embarque, d'autant plus que la façon dont le film est fait, tu sais, il y a quand même la scène où à un moment donné, Guy va voir son ex-femme, puis lui dit « c'est terminé, je veux plus rien savoir
oui. »,
puis elle s'accroche.
Oui.
Puis elle a dit « non, je vais continuer à te faire honte », puis bon, ça vire mal, lui qui essaye d'être très... correct dans la vie, mais plus que correct, c'est pas, le mot c'est pas correct que je cherche, mais c'est proper, tu sais, vraiment dans les convenances, parce qu'il veut être politicien, c'est un joueur de tennis, respecté, respectable, tout ça. Pas millénaire envers son ex-femme, finit par quitter, appelle sa, ce qui va être sa nouvelle femme, celle qu'il veut épouser, qui s'adonne à être la fille d'un sénateur, ce qui est bon pour sa carrière, puis il lui dit, je pourrais l'étrangler.
Oui.
Ça, c'est quand même quelque chose. Il lui crie ça, je pourrais, I could strangle her. Puis c'est le moyen qu'utilise son espèce de double pervers, on peut dire ça comme ça, là. Bruno, qui, quand il l'a tue, il va l'étrangler.
Oui. Oui, oui, oui.
Ça parce qu'on peut vraiment penser aussi que la culpabilité prend parce que du fait qu'il l'ait dit, qu'il l'ait pensé, ça rajoute une notch de son implication dans un sens.
Oui. Il y a une phrase que j'ai notée, c'est Guy qui dit à sa blonde, là, à sa nouvelle...
Anna, je crois, non?
Anna, qui lui dit « Now that you know, you're acting guilty. »
Oui.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où là, il lui a raconté, éventuellement, elle, tu vois le film, ça aussi, c'est bien rendu, c'est qu'elle, elle a un sentiment viscéral, elle a comme à flaire quelque chose, elle a un malaise face au Bruno en question, qui, ouais, appelons-le pervers, le pervers de l'histoire.
Ouais.
Elle le sent depuis le début, tu sais, tu le vois dans ses mimiques, dans le jeu d'acteur, là, c'est tout le temps des petits malaises, ouais. Tout le monde le trouve bien sympathique et charmant, pas elle.
Elle voit la note discordante dans ce qu'il dit.
Puis à un moment donné, elle essaie de comprendre c'est quoi les dessous, c'est quoi la relation de ces deux personnes-là, parce que Bruno n'arrête pas de réapparaître.
Oui.
Et l'autre lui dit « Non, je le connais pas, je l'ai jamais vu ». Bon, elle finit par lui demander qu'est-ce qu'il en est, puis lui, donc Guy, lui raconte ce qui est arrivé. Il lui raconte alors que la police le surveille, le soupçonnant d'avoir tué sa future ex-femme, en tout cas la femme dont il voulait divorcer.
Ouais.
Bon, il le surveille parce qu'il est soupçonné, et à partir du moment où il lui raconte à elle ce qui est arrivé, elle devient mal à l'aise devant les policiers.
Mm-hmm.
Il lui dit, tu vois, maintenant que tu sais...
Tu peux plus être normal.
T'agis comme si t'étais coupable.
Ouais, ouais. C'est particulier la culpabilité, tout ça, qui vient s'infiltrer. Hein?
Oui, oui.
Mais là, la question... Ben, une des questions, c'est... Parce qu'on peut le prendre de différentes façons. T'sais, on peut vraiment dire que c'est quelqu'un d'assez pur, disons, Guy, qui se fait enfiropper par le pervers qui lui...
Malgré lui.
Ou... Ça prenait quelqu'un qui était réceptif à ce message-là, un espèce d'autre réceptif. Qu'est-ce que ça l'arrangeait, en fait, d'avoir... En fait, c'est toute une métaphore de vaccination, puis de dose, d'avoir une mini-dose d'agressivité que l'autre porte, puis lui donne, que lui, il aime ça la prendre, puis il l'accepte. Parce que, quand même, dans leur discussion initiale, quand ils se rencontrent, tu sais, quand c'est deux strangers dans le train... Bruno, il lui dit « Ça doit quand même être pratique de marier la fille d'un sénateur pour sa carrière. » Mais la quote exacte, c'est « Marrying the boss daughter, that must make a nice career shortcut, doesn't it? Mm-hmm. » C'est stiff comme phrase. Puis l'autre, il proteste pas.
Il dit rien.
Puis tu peux penser qu'effectivement, c'est la dichotomie entre son ex Myriam qui l'aide zéro pour sa carrière.
Oui, puis qui veut lui siphonner son fric, ouais. Qui veut pas divorcer parce qu'elle veut le laver, en fait.
C'est ça. Versus la femme qui est la fille du sénateur
qui va l'amener
naturellement dans tout le bon network.
Uh-huh.
Fait qu'il y a ça aussi, t'sais, y a-tu l'idée qu'il était réceptif à ce message-là et c'est son, pas qu'il voulait que ça se fasse, mais que c'est son espèce de réceptivité plus ou moins consciente qui a fait que l'autre a pu embarquer.
À propos de ça, il y a deux petites gemmes dans ce film-là. C'est la même chose à deux moments différents. Le premier, c'est qu'il y a une fête chez le sénateur où Guy est invité avec sa future femme,
ouais.
Anne.
Ouais.
Et où Guy s'invite, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là, mais en tout cas, il s'est invité. Puis, il discute avec... deux notables, deux femmes.
C'est Bruno qui s'invite ou Guy?
Bruno, ouais. Bruno s'invite.
Ouais.
Et là, il se retrouve à discuter avec deux femmes,
oui,
de meurtre.
Oui.
Puis les deux sont ultra intéressés.
Oui.
Ils sont en train de discuter du meurtre parfait, comment on pourrait s'y prendre, puis lui objecte les propositions des femmes.
Assez bien bêtement, des fois, c'est vraiment niaiseux comme plan. Hein?
Oui, puis les deux femmes sont toutes excitées, oui. Puis lui va donner à une l'exemple, tu sais, il l'étrangle finalement.
Oui.
Il veut lui montrer comment on fait pour tuer sans que ça paraisse, tu sais, sans laisser de traces.
Oui.
Mais il y a l'excitation de ces deux femmes-là à parler de meurtre. Il y a un autre moment qui est le miroir de ça un petit peu plus tard, quand là, la police, en tout cas, il y a une poursuite éventuellement, la police doit arrêter Guy, qui en tout cas, c'est à la fin du film, là, puis arrête une voiture parce que à court de véhicule, manque de temps, on ne peut pas aller en chercher. On arrête une voiture, on embarque dedans, puis il y a une bourgeoise, une dame, tout endimanchée avec des bijoux, blabla. Qui est assise, le policier lui dit « Désolé madame, on doit prendre votre voiture, on a une poursuite. » Et la femme de dire « Oh, comme c'est excitant! »
Oui, oui!
Il y a ces deux.
Oui, c'est bon ça! Mais c'est
le
bon, mais...
trip d'être impliqué dans des trucs de sordide chez des dames de bonne société, tu sais.
Mais plus que ça, à la limite, parce que... La dame à qui, les deux premières dames dans la soirée mondaine, il fait pas juste leur dire « Ah, un meurtre, c'est intéressant. » À un moment donné, il lui dit « Non, mais tu dis-moi pas que t'as jamais pensé à te débarrasser de ton mari et à ses traits de caractère
fatigués. » Et là, elle glousse.
Oui! mais d'où l'idée, tu sais, on peut le prendre comme un exemple
puis
de...
Puis nous, ça nous fait rire.
Oui, oui c'est ça. Mais d'où l'idée qu'on peut le prendre comme un exemple de... Ça prend quelqu'un qui est réceptif à ses pièges pervers, pour le dire comme ça, tu sais.
Oui.
Puis que si la personne n'est pas réceptive, ben, il dit non, pas du tout, puis il reste froid, puis ça ferme, puis lui devient désintéressé, parce que son affaire, c'est de voir dans l'œil de l'autre, c'est la lueur de « Ah ouais! » puis qu'il se met à fantasmer, effectivement, puis c'est ça, la dame, « Ah oui, c'est vrai, mon mari, je pourrais, oui, c'est vrai, j'y ai pensé, mais comment? » Puis là, elle se met à penser à comment.
Le mettre en feu, elle essaie de s'imaginer, tu sais, comme l'assommer avec un marteau, puis mettre le feu à la voiture, le truc hyper violent.
De nulle part. Puis lui, il dit « Non, c'est pas une bonne idée, là. » Ça va laisser
tu
plein de traces.
Comment? Oui, puis tu rentrerais comment sans auto, tu sais?
C'est ça. Elle dit, ah oui.
Ah oui,
en l'espace de quelques secondes, ça passe d'une conversation mondaine à elle se sentir mal que son plan pour tuer son mari est vraiment pas pertinent.
Oui, c'est ça, et pas pratique. C'est pas qu'il est trop violent. C'est qu'il est pas pratique. Ouais.
Fait qu'il y a ça, est-ce qu'on prend, mettons, le point de vue de dire, ben, Guy se fait, puis pas chanceux, il se fait embarquer par quelqu'un qui est pervers, puis. Lui, il est à peine attentif, puis finalement, il est pris dans une histoire qui le dépasse, ou il a eu plein d'opportunités de sortir de ça, puis à chaque fois, il est resté assez intéressé pour oublier son briquet, ça vient jouer pareil, il oublie quelque chose pour qu'il y ait une espèce de trait d'union entre les deux, puis que quand l'autre, à un moment donné, Bruno, il dit... Est-ce que t'aimes mes théories? Est-ce que t'apprécies mes théories? Puis il vient de parler de théories de meurtre. Puis l'autre, il dit oui, j'aime tes théories. Ce que Bruno prend comme bon, ben.
Littéralement.
C'est parfait, tu sais. Et donc, d'accord, on a donc. C'est donc un plan parfait. C'est deux étrangers qui se rencontrent dans un train, qui veulent chacun éliminer quelqu'un. J'élimine ton ex, tu élimines mon père, personne ne peut nous soupçonner, on se connaît pas, on va avoir des alibis parfaits, on va être à deux moments, deux. Endroits complètement différents, c'est là, on s'arrête nos problèmes.
Mais là, la question que tu posais, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui s'est laissé embarquer parce que inconsciemment, c'est ce que tu évoques, inconsciemment, il voulait.
Et où il avait même besoin de cette petite dose
de violence,
d'agressivité-là, de violence. Comme un vaccin?
Entendre des propos violents dans la bouche de quelqu'un d'autre pour se soigner des siens?
Ouais.
Un vaccin contre ses propres pulsions violentes à l'endroit de la femme qui est morte, finalement.
Ouais.
Mais c'est allé trop loin.
Oui. Mais le vaccin, la dose était trop forte.
C'est Freud qui dit quelque chose comme ce que le... ce que le névrosé, là je cite de mémoire, là, mm-hmm. Ce que le névrosé, ce à quoi le névrosé aspire, tu sais, dans ses fantasmes les plus ardents, c'est précisément ce qu'il fuit avec la plus grande horreur quand il rencontre dans la réalité.
Oui, 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 exactement.
C'est pas censé arriver pour vrai. C'est le fun parce qu'on le fantasme.
Oui, qu'on en a une petite dose sympathique.
C'est ça, mais c'est pas censé arriver pour vrai. Puis là, il est face à quelqu'un pour qui...
A deal is a deal, au pied de la lettre.
C'est censé arriver pour vrai.
Oui.
En fait, il est pas censé y avoir de malentendu. Ce que tu fantasmes inconsciemment, c'est ça, moi, que je prends en considération. Le reste,
oui.
C'est du blabla.
Oui.
Fait que je vais réaliser ton fantasme inconscient.
Qui est beaucoup plus vrai que tout ta parure.
Oui. Fait que tu devrais être content.
Ben oui.
Puis me remercier.
Et tu es mon père.
Et tu es mon père. C'est évident.
Oui.
C'est quoi le problème?
Voici le fusil. Et voici le... Oui.
Et c'est souvent ça. En fait, c'est pour ça que ça m'a marqué aussi. C'est que des choses comme ça, on en rencontre dans la réalité. C'est pas du même registre que le malentendu, tu sais, qu'on va avoir, par exemple... Si je t'attendais à midi, ah, tu avais compris que c'était à une heure. T'es mal à l'aise de ton côté, je suis mal à l'aise de mon côté.
Ouais.
C'est ça. Non, c'est pas un malentendu délibéré non plus. C'est le choix que quelqu'un fait de prendre en considération la moitié du message de quelqu'un d'autre,
ouais.
Et d'ignorer la deuxième moitié. C'est-à-dire, il y a une dimension inconsciente normale,
ouais.
Que moi je comprends, tout à fait acceptable à ta situation, et c'est elle que je prends en considération. L'autre moitié est inexistante. L'ambivalence de quelqu'un,
c'est ça.
J'y crois pas.
Ou je la fais éclater.
Je la fais éclater.
Ouais.
Je choisis à ta place. Toi, tu es ambivalent, puis c'est moi qui décide,
ouais.
Ce qui a de la valeur puis ce qui n'en a pas.
Puis c'est tout aussi le registre aussi, tu sais, de ce qui est de l'ordre de la parole et du fantasme. Et puis c'est ça la thérapie. Tu viens parler, élaborer sur tes choses, mais de l'ordre de l'agir et de la mise en acte. Puis c'est particulier parce que Bruno, une des premières choses qu'il dit à Guy, c'est qu'il l'admire parce que lui, il agit. Lui, il a une carrière, lui, il joue au tennis, lui, il va devenir politicien. Tandis qu'il dit « moi, je fais rien. Moi, je fais juste parler. » Moi, j'ai pas de vie. C'est vrai, il est un peu, il n'y a pas de métier, il n'y a pas de. Il fait rien.
C'est un fils à maman.
Oui, mais.
Comme dans Psycho, comme le Norman Bates.
Mais, donc, sur le registre conscient, sur le registre des apparences, t'as Guy qui peut penser, Guy qui est un arriviste, en tout cas qui s'arrange pour que ça fonctionne, puis qui essaye, puis.
Champion de tennis. Futur époux de la fille du sénateur.
Versus l'autre qui n'arrête pas de concocter toutes sortes de plans dans sa tête et qui ne fait jamais rien. Mais ça vire de bord quand l'autre agit les fantasmes inconscients de l'autre et lui met devant un fait accompli de dire « Je l'ai fait. » Il dit « T'as fait quoi? Mais j'ai tué ton ex. »
Mon Dieu, quelle horreur.
Ça s'est bien passé.
Mais quelle horreur, mais pourquoi t'as fait ça? Puis va-t'en de ma vie, puis je veux plus te voir, puis je veux pas que t'existes, puis on s'est jamais rencontrés, puis maintenant que je sais, comme ce qu'il dit à Anna,
oui.
Maintenant que je sais, je commence à agir comme un coupable. C'est-à-dire, je cache des choses, je fais semblant
ouais.
De pas le connaître, je comme si je l'avais fait parce que je pense qu'on va penser
mm-hmm.
Que parce que j'ai voulu le faire, c'est moi qui l'ai fait.
C'est le slippery slope du mensonge, hein, parce que quand Bruno il retentit à un moment donné avec sa. Puis Guy est avec sa nouvelle femme, là, il a comme le choix de le dire, mais il dit pas. Il dit, ah, je le connais pas, ça doit être un fan de tennis. Fait que là,
oui.
Là, les mensonges
oui.
Embarquent.
Oui.
À chaque
puis
fois que l'autre retentit.
Tu l'écoutes, puis tu dis, non, dis-lui.
Ouais, c'est ça.
Oui, l'autre retentit. Fait que l'autre le harcèle. C'est comme je suis ta conscience.
Oui, ou ta mauvaise conscience.
Je suis ta mauvaise conscience.
Toujours revient tout le temps à la même place, là où il y avait quelque chose. On peut penser, tu sais, c'est une extrapolation, mais à chaque fois qu'il pense, en plus, on dirait que c'est terminé, il se lève la tête. À un moment donné, c'est assez prenant comme image aussi. Lui, il joue au tennis, fait qu'il y a un match de tennis, fait Fait que tous les spectateurs bougent leur tête de gauche à droite, de gauche, en suivant la balle. Puis Bruno dans l'assistance, puis lui, le fixe.
Oui!
Fait que ça jure!
Oui, oui, oui!
C'est la seule chose que tu vois, c'est sa face.
C'est vrai que c'est...
C'est vraiment un film... Un film bien monté.
Tellement qu'à un moment donné, je vais le prendre un petit peu à l'envers peut-être, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est drôle parce que ce film-là, il y a le film Psycho, il y a le film, il y a les Diaboliques, il y a le film Gaslight, il y a comme des films de la même époque, c'est des films en noir et blanc, je ne me rappelle plus c'est quelle année, là, probablement fin des années 40, années 50.
Ouais, c'est début, celui-là, c'est début des années 50.
Hein? Début des années 50.
52.
Quand on parle en psychanalyse de structure, névrose, psychose, perversion, en fait, la perversion, c'était quelque chose de difficile à articuler parce que c'était pas une structure dont on peut trouver tant d'échantillons, disons, dans des hôpitaux psychiatriques ou dans des cliniques privées.
Le pervers ne vient pas voir le psychanalyste.
C'est ça, c'est ça. Donc, comment on a élaboré la théorie de la perversion, à partir de quoi? Je me suis demandé à un moment donné, coudonc, c'est ça en regardant ces films-là, en sortant du cinéma, que t'as des psychanalystes des années 50, 60 qui ont commencé à se dire c'est ça, parce que c'est tellement ça.
Ouais.
En fait, ça colle tellement à plein de points de vue, notamment au point de vue de l'Édipe, du triangle édipien. Parce que la théorie, c'est quelque chose comme le pervers est dans le déni, en fait.
Mm.
Là où le névrosé refoule, le pervers déni, le psychotique forclos. Ça, c'est dans le langage lacanien, mais il y a comme quelque chose d'un rapport édipien aux parents du même sexe et aux parents du sexe opposé.
Mm.
Puis dans cette histoire-là, t'as une mère qui est dans le déni. Tu sais, à un moment donné, elle dit, Anne, donc, va la voir pour lui dire, écoutez, madame, votre fils a fait ceci, cela, il veut faire accuser Guy, c'est pas Guy, c'est votre fils. Et la mère de dire, ah, ben, tu sais, mon fils, c'est vrai que... Parfois, il va un petit peu loin, ouais. Quand il fait des blagues, il se met dans le pétrin, c'est vrai que ça arrive, tu sais. Puis la femme de lui dire, Anne, de lui dire, mais madame, rendez-vous compte qu'on parle de la mort de quelqu'un.
Mm-hmm.
Et la mère qui dit à Anne, est-ce que c'est Bruno qui vous a dit ça? Non, c'est sûr que non. Ben, voilà.
Oui.
Hein?
Oui.
Ben, si mon fils reconnaît pas les faits, ben,
c'est pas de
y a
faits.
Pas de fait.
Oui.
L'espèce de proximité entre la mère et le fils et sa haine à lui pour son père.
Et sa haine à elle aussi, hein, y a ça. Tu sais, au début, quand ils sont très proches, Bruno et sa mère, Bruno porte...
Elle lui fait les ongles.
Oui.
Sa mère fait les ongles du kid.
Puis lui, il porte une cravate que sa mère lui a donnée avec son nom marqué dessus.
Oui.
Mais à un moment donné, la mère dit, viens voir, j'ai fait un tableau, j'ai peint. Puis là, elle a dessiné une espèce de monstre torturé. Puis lui, Bruno, regarde ça, puis il dit, c'est papa!
Hey!
Puis elle a dit, ah oui!
Oui, ah oui!
Mais elle dit pas non!
Ben, cette façon-là de trianguler, pas trianguler, ouais. C'est comme ça que la psychanalyse... théorise
oui,
la perversion.
Pourquoi, d'où ton idée qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est allé voir Strangers in...
Ben, c'est qu'en fait, tu dis, c'est parce qu'on peut se dire, ah, ben oui, ben justement, ça illustre vraiment ce que la psychanalyse a noté. Mais je me disais, mais en fait, est-ce que c'est pas peut-être l'inverse,
ouais.
Étant donné que des pervers en psychanalyse ont...
Ouais, ouais.
Ou ce que la psychanalyse appelle des pervers. Tu sais, le Bruno, il serait pas allé consulter parce que lui, tout va bien pour lui. Son seul problème, c'est que Guy veut pas aller tuer son père. C'est ça qui l'embarrasse dans la vie.
Oui, oui, c'est ça.
C'est pas... tu sais? Fait que, où est-ce qu'ils l'ont pris, leur matériel, pour articuler leur théorie? Est-ce que c'est pas dans des films comme ça? Il semble qu'il y en avait beaucoup dans début des années 50, fin des années 50. T'sais, de films qui mettent en scène des jeux d'esprit puis des
ça c'était des avant films. Que ces personnages-là deviennent des politiciens
oui c'est ça
bien affirmé
c'est ça
il faut le patch mais j'ai lu un truc qui disait parce que je reste avec l'espèce de métaphore que Guy avait besoin. Guy était un récepteur accueillant de cette agressivité-là. Il voulait, il en avait besoin. Il voulait une petite dose qui aurait pu lui gérer. Puis quelqu'un qui a écrit, Guy serait sauvé de son Bruno intérieur, il aurait comme été inoculé, hein, ça se dit?
Oui.
De ça, face à son aveuglement, de sa propre destructivité, de ses propres mouvements agressifs. Fait qu'il y avait cette réceptivité-là, puis quelqu'un qui aurait été plus à l'aise avec ses propres mouvements agressifs, il aurait été capable de dire « Non, c'est pas tranquille, je serai pas... »
Mais à quel moment?
Dans la rencontre dans le train...
Parce que là, ouais, ok. Mais parce que la rencontre dans le train, c'est comme on extrapole peut-être parce qu'on sait. Mais dans la rencontre dans le train, tu sais, avant que tu saches tout ce qui va se passer ensuite, en soi, il y a rien de compromettant. T'sais, tu sais, tu peux te dire, ben oui, on rigole. On en lit des faits divers, on en lit des Agatha Christie, on jase, là. On bavarde. Ce serait une drôle d'idée, n'est-ce pas, que chacun débarrasse l'autre de son problème.
Son respectif.
Le meurtre parfait.
Ouais.
En soi, c'est pas engageant. Si c'est engageant, c'est qu'il y en a un qui a pas compris le registre dans lequel se situait l'autre et que l'autre a refusé ou a pas compris le registre dans lequel se situait un.
Ouais.
Par exprès ou pas.
Ouais.
Parce que je dis ça parce que c'est aussi la dérive de comment, tu sais, quand on parle d'abus, quand on parle de violence, comment on peut avoir tendance à se demander, mais qu'est-ce que la personne qui a subi ça cherchait de son côté pour se maintenir là?
Ben oui, absolument.
Puis ça, c'est la pente savonneuse.
Absolument. Ben oui, puis on a déjà parlé. Puis des fois, un n'empêche pas l'autre, mais il reste que... Est-ce qu'on dit, mais Bruno, il est pervers, il va tuer son ex-femme sur une conversation de 5 minutes à bâton rompu dans un train? C'est clairement lui le coupable, ou on se fait prendre un propre piège de suranalyse en disant, ouais, mais si l'autre l'a pas arrêté ou n'a pas dit un nom ferme... Il devait le vouloir en partie, donc la faute est partagée. Puis à un moment donné, à force de partager la faute, c'est là la pente glissante, c'est que t'en finis quasiment à dire c'est 50-50, c'est 60-40. Finalement, c'est Guy qui aurait dû, c'est les propres enjeux de Guy qui.
C'est ça, qui ont créé son erreur, tu sais. C'est ça qui ont provoqué le pacte pervers que l'on a été amené à lui proposer.
C'est ça.
Parce qu'en fait, il y a comme une affaire qui est quand même assez claire dans cette histoire-là, c'est qu'il y en a un qui est capable de tuer, puis il y en a un qui ne l'est pas. Tu sais, il y a comme quelque chose qui est interdit pour un, qui ne l'est pas du tout pour l'autre. L'autre, ça n'a pas été un problème pour lui. Il y a toute une tirade à un moment donné sur, tu sais, que Bruno s'en va, s'en vient au point de rupture. Là, tout est proche de s'écrouler dans la vie de Bruno, dans la vie de Guy, qui va se faire accuser du meurtre de son ex. Future ex-femme. Et donc, il décide, pour éviter de causer des problèmes à Anne, qui est au courant maintenant, puis à son père, qui est sénateur, puis, tu sais, comme l'opprobre public pour tout le monde, de prendre les choses en main finalement. Et donc, il appelle Bruno, puis il lui dit « Ok, c'est correct, j'accepte ton pacte, je m'en viens, sors de chez toi, je vais m'occuper de ton père.
»
Finalement, avec l'intention d'aller expliquer à son père que le fils est comme complètement barjo, puis tu sais.
Mm-hmm.
Mais donc, Bruno a vu venir l'arnaque, s'est couché dans le lit du père, et donc surprend Guy. La tirade de Guy, c'est « t'es malade, il faut que t'ailles te faire soigner ».
Ce qui veut dire que cette tirade-là, excuse-moi.
L'autre enchaîne en disant « mais en fait, moi j'ai un meurtre sur la conscience ». Je dois me faire rembourser.
Ouais.
C'est pas normal que tu profites de mes problèmes de conscience.
Ouais. Parce que tu vas en profiter.
Sans me payer.
Ouais.
Fait que, tu sais, sur le mot conscience, t'as une tirade, tu sais. Écoute, je pense que c'est pas de la méchanceté. Dans le fond, je pense que t'es souffrant.
Ouais, ouais,
puis
ouais.
L'autre l'écoute, puis sa réponse est encore complètement à côté.
Mais tu vois, c'est vrai que cette tirade-là, c'est très juste, pourrait venir vraiment légitimer l'idée que Guy, pour le dire comme ça, là, c'est pas de sa faute. Parce que c'est quand même, il y a vraiment, j'ai lu les interprétations du film qui disent que, à la limite, c'est de dire que Guy, c'est même pas 50-50, c'est que Guy crée un double malfaisant qui va pouvoir réaliser ses fantasmes inconscients, c'est quasiment lui qui place l'affaire, tu sais.
Oui.
Qui est quand même une twist, tu sais. C'est vrai que si tu le gardes du point. Mais bon.
Dans la même. C'est comme dans la même époque, puis ça a perduré, t'avais, mais en fait, si la femme se fait battre par son mari, on ne dira pas tant peut-être qu'elle l'a cherché, mais on va se demander qu'est-ce qu'elle fait dans cette dynamique-là qui alimente ça. C'est comme la logique aussi d'une époque.
Ouais.
De la même époque où on va dire, ben en fait, t'es une mère frigidaire, comme dit Bruno Bettelheim, et donc par conséquent, tu as causé l'autisme de ton enfant.
Mm-hmm.
C'est comme il y a une continuité d'une logique que sa cohérence interne, mais qui n'est pas nécessairement appuyée sur des faits, là.
Oui, oui. Mais bon, l'avantage d'un film, de discuter d'un film,
ça
nous donne la liberté aussi de dire... Parce que, tu sais, si quelqu'un qui a un point de vue qui dirait c'est une façon de montrer comment une personne... est divisé, puis il y a un côté obscur, puis ça a été comme divisé en deux, puis il y a comme c'est une histoire de double, en fait, puis que c'est juste l'histoire même, à la limite, tu sais, tu peux dire c'est l'histoire de Guy qui parle avec un interlocuteur imaginaire, qui est le représentant de ses pulsions malsaines. Tu sais, on peut fantasmer n'importe quoi. Puis justement, parce qu'il y a l'idée que, par rapport à ça, il y a l'idée, je sais pas si tu te souviens, que quand Guy apprend que Bruno a tué son ex, il y a un alibi.
Oui, il était dans le train.
Il pense qu'il y a un alibi. C'est-à-dire qu'il est dans le train avec un professeur qui est un peu paf, puis qui lui raconte des trucs. Fait que là, lui, son truc, son élan, c'est de le retrouver pour que ce professeur-là puisse dire, ben effectivement, ça aurait terminé l'histoire.
T'sais. Oui.
Mais là, te rappelles-tu, parce que non, moi, ce que j'ai lu, c'est que cette conversation-là, qu'on pourrait prendre, on pourrait dire, tu sais, ça n'a pas d'importance de quoi il parle, mais ça a l'air que le professeur lui parle d'une formule mathématique. Et que si. Puis il demande s'il connaît ça. Puis il est un peu paf, le prof. Du reste, il ne se souvient plus d'avoir été dans le train avec lui. Là, c'est ce qui fait toute l'intrigue.
Mm-hmm.
Il est encore accusé d'avoir potentiellement tué son ex parce que le professeur, qui serait son alibi, est trop. Il était trop
pacté pour ça. Je me souviens pas, je suis désolée, j'avais beaucoup fêté.
Mais ceux qui sont pour les tenants de la théorie du double disent que c'est pas par hasard que ce que le professeur lui demande s'il connaît ou s'il comprend, c'est une affaire d'intégration, c'est une affaire d'une formule mathématique qui intègre les choses puis qui passe de double à simple, d'unité ou je sais pas quoi. Tu sais.
Oh.
Là, ça vient être le smoking gun de la théorie du double. Mais ça, je disais que le film est tissé assez serré puis on peut dire qu'il n'y a pas vraiment une scène qui est superflue ou qu'on pourrait dire dans l'après-coup, il n'y aurait pas dû mettre ça, ça n'a pas de sens.
C'était
parce que chaque scène, plusieurs des scènes sont comme un rappel d'une autre scène, mais à un autre registre ou à un autre niveau, comme la scène où il est avec les deux femmes, puis Bruno, puis comme il leur fait miroiter l'avantage de tuer leur mari, puis les deux autres embarquent, il y a aussi dans cette scène-là, qui voit derrière les deux femmes, la sœur, la petite sœur de Anne, qui est donc la future femme de Guy, qui, elle, a des lunettes très épaisses qui lui fait penser à celle de Myriam, la femme qui a tué. Puis il perd le contrôle, puis il se met à étrangler la dame pour vrai.
Et c'est lui qui tombe dans les pommes.
Oui. Oui, oui, quand même. Hein?
Mm-hmm.
L'actrice, en passant, qui joue la petite sœur, c'est la fille de Chicago. Hein?
Oui.
Ouais. Mais bref. Oui?
Je sais pas.
Ouais.
Ben, tu sais, c'est que tu sais, on dit juste une petite parenthèse, je dis pauvre elle, mais j'en sais rien, mais tu sais, c'est ce qu'on raconte là, dernièrement dans le mouvement MeToo, là, l'actrice qui joue dans Psycho, qui est allée dénoncer Hitchcock.
Ah, j'ai pas entendu.
Récemment, l'année dernière, ou il y a quelques mois, dans le contexte agression non dénoncée, là. Mais c'est aussi Hitchcock, le talent qu'il a pour rendre des histoires tordues, ça peut juste venir d'un esprit qui est capable de les imaginer, ces histoires tordues-là, puis c'est bien ficelé, fait que d'où mon pauvre elle. Là.
Oui, mais en même temps, ça revient à la conversation qu'on avait avant le podcast, de dire, quand on entend des choses, sais, c'est un vrai dilemme parfois. Qu'est-ce qui est la vérité? Qu'est-ce qui est la vérité qu'on croit déceler parce qu'on est wise, mais qui en fait est celle qui avait été dit subtilement pour nous accrocher? Tu sais, dans ce film-là, il y a eu toute la rumeur qu'à la fin du film, Hitchcock a forcé sa fille, qui avait peur des hauteurs, à être dans le carrousel en hauteur, puis qui avait dit « je vais te donner 100$ si tu restes là », puis il avait, tu sais, elle pensait que ça serait quelques minutes, puis elle restait une heure tout seul en haut à pleurer.
Non.
Un truc épouvantable, puis, mais bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai?
Il trouvait ça drôle, quoi.
C'est ce que la rumeur disait, tu sais, mais elle, en entrevue, a dit que c'est les publicistes qui ont embarqué avec ça pour rajouter un peu au personnage de son père, mais que dans les faits, ça a duré 3 minutes, elle n'était pas tout seule, il y avait 4 autres personnes avec elle. On peut voir des photos où elle rit, puis que la seule chose où elle s'est faite léser, c'est qu'elle n'a jamais eu 100$ pour le faire, puis que son père est trop cheap, tu sais. Puis...
Mm.
Mais là, est-ce que c'est elle qui protège son père? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui est mm-hmm. arrivé? Est-ce qu'il y a un peu de vrai dans l'affaire? Est-ce que c'est un personnage qui a créé...
Aussi.
Ou est-ce qu'il essayait d'embellir le personnage qui on s'en sait pas la moitié de ce qu'il a fait?
Mais n'empêche, tu sais, il y a comme la vraie personne d'Hitchcock, mais il y a le Hitchcock
mm-hmm.
qui peut imaginer. En fait, ça vient d'un livre, là. C'est pas lui qui a écrit le scénario, mais tout ce qu'il fait est dans le même sens. C'est-à-dire, c'est le même.
Oui, oui.
C'est le même du suspense. C'est comme ça qu'on c'est ça son branding là, le maître du suspense, mais c'est d'une mouture psychologique.
Ben, c'est comme tu disais, on peut penser vraisemblablement il comprend la perversion,
c'est ça,
pour mettre en scène toutes ces choses là
c'est ça y compris la dimension de la relation du personnage tordu avec sa mère.
Oui,
c'est le oui. Tu sais, c'est comme de l'enfant adulte.
Parce qu'indépendamment de si c'est un double ou non, si c'est un film sur son double, ou ça n'a pas vraiment d'importance, parce qu'il y a de quoi, quand même, tu sais, d'assez patent dans le film, de deux personnes qui sont prises sans le vouloir, puis bon, à un moment donné, qui se retrouvent intriquées, puis tout ça, tu sais. Puis bon, jusqu'à quel point c'est des doubles ou pas des doubles, mais c'est vrai qu'il y a l'idée qu'à un autre niveau, il y a le film, et il y a le livre original, et c'est quoi les différences entre les deux, puis qu'est-ce que Hitchcock a modifié justement pour en ajouter. Puis une des choses qui est le plus important dans l'histoire, qui a été modifiée par lui, puis qui change tout, puis en lien avec ce que tu disais tantôt, c'est que dans le livre, Guy finit par tuer le père de Bruno.
Ah oui!
Ce qui change tout le film. Ben, tout le film. Ça change un peu le personnage. Parce que là, c'est vrai ce que tu dis, moi je me rallie à ça tout à fait, que quand il fait la tirade de dire qu'on pense que ça va tuer son père, mais finalement il veut dire au père que son fils est malade, puis il faut l'aider, puis qu'il est souffrant, c'est vrai que là, ça vient vraiment positionner le fait que, oui, il y a peut-être eu des fantasmes, puis oui, il y a peut-être eu plein de choses du l'ordre des fantasmes, mais que pour vrai, dans la réalité, quand vient le dilemme, où il garde ses principes, puis il n'y a pas question, puis...
C'est il comme peut pas.
C'est ça. Mais dans le film, dans le livre, il tue le père, puis ça finit qu'il se fait arrêter, puis c'est beaucoup plus prenant qu'il était consentant à l'idée que Bruno agisse les choses,
mm-hmm.
puisque lui, il n'hésite pas à tuer son père.
C'est que dans le livre, le double, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui de clair dans ce jeu-là de double inversé.
Mm-hmm.
Donc, je finis par devenir toi, dans je finis par penser comme toi, je finis par agir en miroir de toi,
ouais.
Après avoir glissé dans ton délire à toi,
mm-hmm.
c'est comme tu as réussi à m'avaler, dans le fond.
Oui.
Je fais ce que tu veux.
Ouais.
Dans le film, il y a le dilemme moral.
Puis il y a une décision.
Oui, il y a une décision. Puis là, il y a comme la dans cette tirade-là, c'est comme dans cet échange-là, il y a le mot conscience.
Ouais.
Le premier qui parle de comment ça va pas, comment... Puis l'autre qui lui répond, Bruno qui lui répond, j'ai un meurtre sur la conscience. Alors qu'on sait très bien que ça n'a pas été quelque chose qui l'a affecté moralement.
Ouais.
Tu sais, c'était un deal. C'était the art of the deal. On a fait un deal.
Ouais.
Ça fait que moi, j'ai tenu mon bout. il faut que tu me rembourses, puis si tu ne me rembourses pas, je vais te dire ta dette en te parlant de conscience. C'est à ta conscience, à toi que je parle en disant ça. Ouais. C'est pas à la mienne, moi. Je veux que mon père meure, c'est, je veux plus souhaiter.
Et ta femme, je m'en fous.
Mais ta femme, je m'en fous. Une de plus, une de moins. De toute façon, tu en as deux.
Oui, c'est ça, puis la nouvelle est meilleure.
C'est ça, moi j'en ai pas.
Oui.
Moi, j'ai juste ma mère.
Oui. Quand même, hein. Mais bon, puis il faut le dire aussi, parce qu'on s'en est parlé brièvement, mais, bon, en fait, on ne s'est pas parlé de rien vraiment par rapport à ce qu'on pensait du film, mais ce qu'on a évoqué par courriel, c'est quand même des interprétations du film basées strictement sur le fait que c'est un film sur l'homosexualité refoulée des personnages, et que non seulement ça, mais c'est que... C'est Hitchcock qui n'a pas le droit d'en parler, mais qui veut en parler, puis qui trouve une façon détournée d'en parler. Et là, des articles qui montrent les multiples signes, indices qu'il déploie, là, qu'il laisse tomber comme le petit poussin, tout le moment du film pour nous montrer que c'est bien de ça dont il parle, à une époque où c'est tabou, puis où en 1950, il y a même un mouvement où qui essaie de taire ces choses-là. Puis là, ça dépend comment on voit après ça, c'est quoi une création, puis c'est quoi une œuvre, puis c'est quoi un film. Moi, j'embarque jamais dans l'histoire, ou en tout cas très peu, dans l'histoire d'un créateur qui fait des films, qui est un processus compliqué, avec l'objectif de sensibiliser les gens à une idée toute simple, qui pourrait dire, prendre une tribune puis en parler, mais qui est mieux la coder dans son film en espérant que les gens décodent et qui après ça soient sensibilisés. Je peux pas imaginer quelqu'un qui passe des journées à mettre les spots aux bons endroits puis engager des acteurs puis à se battre pour avoir l'acteur qu'il veut puis qu'il veut pas, puis à tout monter puis couper puis à la production pendant des mois un film avec l'idée de dire « je suis pas contre l'homosexualité, j'espère que vous allez le comprendre en écoutant le film ». Pour moi, ça fait aucun sens.
Tu regardes un objet avec une théorie qui précède l'objet que tu regardes, et là, l'objet que tu regardes, tu y cherches des confirmations de la théorie qui le précède.
Oui, c'est ça.
Ça fait que tu arrives, toi, tu penses que... l'homosexualité, c'est un enjeu important, c'est quelque chose qui te traverse, tu as lu là-dessus, ou je sais pas trop, il y a des approches critiques en études du genre, ou études LGBT, ou je sais pas trop, puis tu es marqué de ça. Puis après, tout ce que tu regardes vient confirmer ce que tu savais déjà.
Oui, mais tu sais, ça revient à ce qu'on disait la dernière fois quand on parlait de Paul McCartney, puis quand on veut trouver des indices comme quoi il essaye de nous dire qu'il est décédé. T'en trouves plein?
Oui.
Comment on écoute des patients? Puis à quel registre on les écoute? Parce que c'est la même chose, à quel registre on écoute un film comme ça? T'sais. Si on pense que c'est un truc conscient, que l'auteur a vraiment délibérément des messages clairs qu'il veut nous diffuser, nous transmettre, puis il y a quelques codes pour pas que ça soit trop évident parce que c'est tabou, c'est quand même une toute autre façon de voir la...
Ben, ça teinte complètement ta lecture.
Puis ceux qui voient ça, c'est parce que ça m'a fait penser, tu sais, autant, l'autre fois on disait, il y a des gens qui voient les pochettes des disques des Beatles, puis qu'ils disent, regardez, c'est marqué Dead, c'est marqué telle affaire. Là, les gens disaient, mais soyez un peu attentifs, la scène de la fin autour du carrousel, un carrousel, c'est un merry-go-round dans la sous-culture homosexuelle des années 50, c'était le symbole de l'homosexualité, le merry-go-round, ça faisait partie du vocabulaire, c'est clair que c'est ça, sa relation avec sa mère, il y a plein d'indices. Mais là, tu sais quoi?
Oui, sa relation avec sa mère? Quoi ça?
Ben, que tu sais, l'idée que les homosexuels sont proches de leur mère, comme lui avec sa relation avec sa mère, tu sais, il y a plein d'indices, comme quand c'est ça qu'on cherche pour les Beatles, on en trouve plein, puis c'est toute la question... qui est aussi dans le film, à quel registre on parle, tu sais, dans quel registre Bruno, au tout début, là, dans la scène charnière où les deux se rencontrent, c'est quoi le registre dans lequel Bruno parle, c'est quoi le registre dans lequel Guy écoute ou écoute pas, c'est quoi les intentions de l'un ou l'autre, c'est un peu la même lecture qu'on peut faire quand on écoute Hitchcock.
Tu sais, c'est bon.
Moi, tu sais, je reviens toujours à Twin Peaks, mais tu sais, dans la saison 3 de Twin Peaks, en fait, c'est une espèce de film de 18 heures, il y a 18 épisodes d'une heure. il se passe plein de choses dans différents registres. Puis il y a des double gangers, il y a des doubles, il y a des rêves, il y a des réalités parallèles, il y a des ruptures de temps. Il y a plein d'affaires. Mais il y a quelqu'un qui a fait un vidéo de 4 heures pour montrer qu'il y a un message que David Lynch essaie de dire, et c'est son message central sur le fait que la télévision était meilleure en 1950 qu'aujourd'hui. Puis c'est toutes les preuves qui vont dans cette
Donald sens. Trump aussi trouve ça, juste soit dit en passant. Mais...
non, mais c'est ça. Dans quel registre on écoute quelqu'un, puis dans quel registre on lit et on écoute des œuvres, puis qu'est-ce qui est des processus inconscients dans la création de l'œuvre, puis qu'est-ce qui est de messages délibérés.
C'est comme, je veux revenir, je trouvais ça vraiment bon, là, ce que tu disais, mais quand on écoute des patients aussi, parce que tu as aussi toute cette approche-là qui... Ben, cette approche-là, dans toutes les approches en psychothérapie, tu as comme la tentation qui est là de trouver chez le patient ce que tu cherches ou ce que tu connais.
Oui.
Le DSM, c'est l'incarnation de ça. C'est-à-dire que là, tu as un gros livre très épais avec un paquet de mots qui sont suivis de un certain nombre de symptômes à cocher ou pas, 8 sur 10 ou 7 sur 10. Ou... Donc, est-ce que la personne manifeste ceci ou cela? Si tu as tant de fois oui, ça veut dire que tu peux mettre cette étiquette-là.
Ouais.
Puis, je comprends que ça peut avoir un intérêt s'il y a un traitement spécifique. Habituellement, il n'y en a pas. Habituellement, ça aurait l'utilité de permettre aux professionnels de se communiquer entre eux plus rapidement à propos de quelqu'un.
Mm.
Mais en fait, ça fait juste te donner un mot que tu plaques sur une situation pour, à la limite, arriver à rien d'autre que le mot lui-même.
Ouais. C'est le grand drame potentiel. Il y a des affaires qui t'intéressent, qui t'interpellent, qui sont ta propre névrose, tes propres enjeux, puis tu les vois partout chez les autres. Puis si t'en as pas, tu l'obsessionnalises, tu le codifies.
Pis... C'est ça.
C'est dur d'écouter quelqu'un librement de tout préjugé à un moment donné, disant pas « Ah ah! »
Les catégories que tu emploies pour te repérer quand tu écoutes quelqu'un, parce que tu peux pas non plus, sans prendre de grands risques, éliminer toutes les catégories qui t'aident à te repérer dans le monde. Mais les catégories que tu prends, est-ce qu'elles sont souples? Est-ce que tu peux les remettre en question? Est-ce que tu peux les mettre en arrière de les laisser tomber pour entendre quelque chose qui te surprend.
Oui. Mais je t'avais dit ça, moi, à un moment donné, quand j'ai écrit un bouquin sur le monde du travail, puis il y avait pas tant de catégories, mais il y avait des types de personnes, puis je m'étais dit, tu sais, c'était un peu ludique comme livre, je suis pas assujetti à parler du DSM, je vais inventer des personnages ou des façons de décrire des gens ou différents types de monde au travail, puis je vais avoir justement des critères souples, basé entre autres sur la relation des gens à l'autorité, au travail en tant que tel, à l'argent. Tu sais, des grands critères. J'ai pas tassé de sortes de choses. Puis à un moment donné, je lui ai donné une conférence sur ce que j'avais fait. Puis dans la conférence, il fallait que je resserre un peu mon propos. Puis ça dure juste une heure. Puis fait que je l'avais resserré. Puis finalement, j'avais des catégories. Mais plus je le resserrais pour que ça soit facilement dit en conférence, plus mes catégories devenaient...
caricatural,
puis bête, puis à un moment donné, tu sais, les gens étaient contents, puis j'étais content, tout le monde était content, mais un des feedbacks que j'ai reçus, c'est finalement, c'est un peu comme le Myers-Briggs, hein, ou c'est un peu comme rouge, vert, bleu, jaune.
C'est ça, c'est d'autres mots.
C'est un peu plus fancy, mais c'est le même principe, puis j'avais tellement épuré mes trucs pour que ça soit facile à dire, que finalement, effectivement, ça, j'aurais pu, je passais par tout ce chemin-là pour dire, en place de dire bleu, de bleu foncé. Ça a été la fin. J'ai plus jamais fait de
comme
ma conférence.
Le plus fait.
Ça a été la fin de ma conférence sur mes types de gens au travail.
Ah oui? Fait que t'as fait tout ce travail-là de ton côté pour te faire dire que finalement, ça existait déjà.
Mais puis c'est que c'était pas
une fois
fou.
Que tu t'es rendu... Mais c'était pas... C'est la formule de la conférence, en fait. Le fait de parler pendant une heure de quelque chose de complexe qui embrasse l'âge t'oblige à parler d'une certaine façon.
Ouais. Puis tu sais, tu veux faire image, puis parce que tu sais, de dire à du monde, ben regardez, pensez à votre position face au travail. Pas à votre travail, à vos tâches, mais au fait de travailler. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est valorisé? Working hard. T'sais? Pensez votre relation. Plein de choses comme ça. C'est assez conceptuel. C'est toujours ça. Si t'es trop conceptuel, à un moment donné, puis tu t'adresses à 100 personnes, ben, il y a plein de gens à un moment donné, qui veulent un exemple, une histoire, quelque chose de plus concret.
À quelque chose, oui.
Fait que là, tu dis, OK, je veux juste la relation au travail, la relation à l'autorité. T'sais. C'est quoi votre relation? Pas à votre boss, mais au patron avec un P majuscule. Là, OK, mais... Là, on dit, OK, je peux pas juste dire ça. Fait qu'il faut que je l'illustre, il faut que je donne des exemples, il faut que je le caricature. De caricature en caricature, il y a quelqu'un qui dit, finalement, c'est bleu, jaune, vert. Puis tu dis, ouais, c'est pas pour ça.
C'est ça.
Mais bref, c'est que je dis ça, c'est pas grave, mais c'est l'idée que... pour continuer la caricature, c'est que tu rencontres quelqu'un qui te parle de sa difficulté au travail, puis à un moment donné, malgré toi, tu finis par dire, ah ben ça, c'est un bleu foncé. Puis tu viens, pouf, d'encapsuler quelqu'un dans un truc qui dit pas du tout.
Ben, le pervers, la perversion, c'est quelque chose sur quoi j'ai beaucoup lu.
Mm-hmm.
Comme concept, pour comprendre des choses que je comprenais pas, que j'avais de la difficulté, des phénomènes que je rencontrais, que j'avais de la difficulté à articuler, j'ai trouvé le pervers. Puis à un moment donné, j'ai commencé à trouver que ça c'était pervers, puis l'autre était pervers, puis ça c'était pervers, puis si c'était pervers, puis à un moment donné, après, ça marchait plus tant que ça parce que j'avais découvert narcissique.
Mmh.
Le pervers narcissique et le narcissique. Puis là, bon, ben lui est narcissique, puis l'autre est narcissique, puis finalement, ce que tu fais, c'est que tu fais juste course. T'espères arriver en faisant ça à rendre compte avec un seul mot de quelque chose que tu vois, mais en utilisant ce mot-là, tout ce que tu vois est ravalé dans le mot.
Ouais.
C'est un peu ça. Puis c'est la même chose avec la théorie, la grille de lecture.
D'où le vrai défi devant une situation ou un patient ou quelque chose qui arrive dans la vie, une tragédie d'autant plus. On peut toujours dire, ben regarde, toi t'as ta grille, moi j'ai ma grille, chacun sa grille de lecture, pourquoi la mienne serait meilleure que celle de l'autre? Ben non, tout se vaut. Puis finalement, de plus réagir à rien, puis le défi de dire non, à un moment donné, par rapport à ce qui... D'où notre intérêt des fois pour les crimes ou les transgressions, de dire non, à ce moment-là, il y a eu un dilemme éthique, il y avait un choix, il y avait quelque chose à faire. Ouais. Voici ce que la personne a dit, a fait, là où elle a failli. Là, il y a quelque chose sur laquelle... C'est pas juste tout s'équivaut, tout est correct. There's the no fault. On est dans le no fault country ici. Hein?
Oui.
Mais tu sais, il y a ça. On a vécu ça il n'y a pas si longtemps. Il y a un drame qui se passe dans les CHSLD. Il y a des dizaines et des dizaines de centaines de personnes âgées qui meurent, dont plusieurs de mal nourries, pas nourries, ils n'ont pas rien à boire.
Déshydratation.
Finalement, chacun a son idée de pourquoi, mais on passe à d'autres choses.
Il n'y a personne. Quand la petite fille de Granby est morte, le Québec est en horreur. Quand on lit les journaux, en tout cas, il n'y a personne qui peut avoir été mis au fait de cette histoire-là à qui ça n'a rien fait. Là. Je veux dire, c'est comme épouvantable son histoire. Et puis, tu t'apprends que cette petite fille-là, elle est prise en charge par la Direction de la protection de la jeunesse dans le coin de Granby où vivent ses parents depuis quasiment sa naissance et qu'il y a des signalements puis qu'il y a... Bon. Et là, la réaction du gouvernement Legault, c'est de dire, ben, on va donner congé au directeur de la DPJ de l'Estrie. Parce qu'il faut que quelqu'un soit imputable. Sur le coup, on peut être content de se dire, bon, ben là, on commence à entendre parler d'imputabilité dans un grand réseau anonyme de gens qui travaillent sans que personne soit personnellement imputable.
Ouais.
Ça fait du bien pour que ça tombe rapidement. Enfin, il y a une commission d'enquête. Je ne sais pas si c'est tombé ou si ça continue, mais on n'en parle plus dans les journaux.
Ouais.
On dirait qu'il y a eu la satisfaction d'avoir la tête de quelqu'un, puis c'est fini, ou je ne sais pas trop, tu sais. Mais ce truc-là d'imputabilité...
Ouais.
Tu sais, qu'il y a une personne, il y a des gens, les gens sont responsables de leurs actes.
Ouais.
C'est vrai que c'est...
Puis aux États-Unis, c'est plus... c'est vu différemment. T'sais, aux États-Unis, les gens se font une fierté, les politiciens, les gens en affaires, beaucoup, beaucoup, les leaders, tu sais, les leaders qui sont autoproclamés leaders ou qui sont leaders de l'opposition, ils vont dire ça, ils vont établir des objectifs clairs, quantifiables. Moi, je l'ai vécu souvent, là. Tu sais, un leader qui arrive puis qui dit, là, on a une business de... Je dis un chiffre, ça n'a pas d'importance, mais de 3 millions, puis l'année prochaine, on va la monter à 6 millions, puis c'est moi le leader, and I'm fully accountable. Là, moi, je me dis, ouais, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Tu sais, là, contrairement à une espèce de bureaucratie no fault où tu ne sais pas qui fait quoi, lui, il a été très transparent. Quand, tu sais, d'une façon quantifiable, on est à 3, on va être à 6, on va doubler nos revenus, nos profits vont passer de 15 à 40%. I'm fully accountable, I'm your leader, I will lead you. Là, tu dis, OK, ben là, moi, je ne l'oublierai pas dans un an, on en est où, tu sais. Puis parfois, un an plus tard,
lui, il l'a oublié.
Mais même pas, la business, elle n'est pas passée de 3 à 3,1 millions, ça n'a pas marché du tout. Puis il fait un speech, puis il regarde les gens dans les yeux, puis il dit « I take full responsibility for what happened ». Mais ce n'est que des mots.
C'est comme...
Il dit « Donc, tu démissionnes ». Non, il ne démissionne pas.
C'est comme dirait l'autre, en dans le communisme ou dans une dictature, c'était toi, puis le capitalisme, c'est cause toujours...
Mais puis des fois même, c'est le drôle d'effet où, tu sais, c'est le pouvoir des mots puis de la parole, hein. Du seul fait de te dire « leader » et « accountable », même si tu réussis pas, et même des fois, nonobstant le fait que tu as complètement tout gâché, le fait de t'avoir mis autant à l'avant-plan te fait avoir une promotion et quelque chose de plus gros. Fait qu'un an plus tard, la personne est responsable de 30 millions, 3 territoires. Mais bref, je pensais pas nécessairement qu'on parlerait de ça, mais... Moi, je me rallie tout à fait au passage que tu as noté. Et peut-être que... Moi, j'ai pas lu le livre. Hein, je ne sais pas toi, j'ai pas lu le livre. Mais peut-être que si on lirait le livre, on trouverait que là, le personnage... En fait, tout est différent parce que le personnage, à ce que je comprends de Bruno dans le livre, est beaucoup moins charmant. Tu sais, il est un peu charmant quand même dans le... On peut-tu dire ça dans
oui.
le film?
Oui.
Il y a un aspect... Tu sais, on a hâte de voir comment il...
Comment il va sentir,
ouais, qu'est-ce qu'il va faire.
Oui.
Tandis que dans le livre, c'est plus clairement un alcoolique qui est déplaisant, qui est lourd, qui est déplaisant. Puis...
Fait que tu t'identifies pas à lui, c'est ça?
Ben, il y a ça, puis comme Guy finit par tuer son père, ben là, c'est plus facile d'avoir la lecture de « ouais, ben, ça l'arrangeait peut-être d'avoir quelqu'un qui proposait ça, puis ça n'a pas pris beaucoup. Surtout qu'il a dit « J'ai tué ton ex, ça va tuer son père », puis il finit avec un straight jacket. » Fait, les mouvements agressifs qu'il y aurait, puis qu'on a tous, sont plus clairement là. Le piège n'a pas besoin d'être très élaboré pour qu'il tombe dedans.
Ce que je trouve le fun, tu sais, dans le fait de, tu sais, comme se rencontrer pour parler d'un film... C'est l'ouverture, ce que ça donne sur toutes sortes de choses auxquelles on peut penser, que ça stimule l'imagination. Ce qui est le contraire de ramasser un film dans une grille d'interprétation qui est préétablie.
Mm-hmm. Tout à fait.
Puis, ce film-là, je le retiens pas pour ce que je peux en interpréter à partir d'une grille de lecture que j'aurais d'avance, mais parce que c'est avant d'avoir une grille de lecture que je l'ai vue.
Oui.
Puis que je m'en suis référée quand je disais au début, mais est-ce que les psychanalystes, dans le fond, ils sont appuyés sur le cinéma pour élaborer leur théorie de la perversion? Ben c'est un peu ce que moi j'ai fait, en fait, en partie, tu sais. C'est-à-dire de partir d'une histoire puis d'essayer de mettre en mots, de créer des catégories ou de créer une compréhension des choses.
Ouais.
À partir d'un scénario qui a été écrit par quelqu'un et que j'ai trouvé vraiment génial,
ouais.
Parce que ça me résonne des choses que je peux voir dans la vraie vie.
Oui, puis dans sa propre vie, de voir comme ça, d'une façon métaphorique, là, mais des moments charnières où tu as le choix de prendre une décision ou une autre, de te laisser embarquer ou non, de te laisser embarquer pour finalement, à posteriori, te dire finalement, j'aurais pas dû embarquer
ou dans cette vie-là. Ou comprendre après coup dans quoi t'embarquais, ouais. Ce que tu savais pas au début.
Ouais.